Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et bonjour tout le monde, bonjour les cinéphiles.
Ça va, ils sont réveillés, je vois. Il y en a
mais
qui
oui,
tweet, l'autre qui.
Mais je t'écoutais, moi je t'écoutais chanter, j'espérais que t'allais reprendre un petit peu le refrain.
Ouais, parce que je suis sûr que tu vas couper ça au montage.
Pas du tout.
Et toi, tu connais les paroles, parce que moi, depuis le début de Capture Mag, du podcast Capture Mag, je ne cesse d'entendre. Your body is dead.
Ah ouais.
Donc ça met tout de suite l'ambiance à chaque fois qu'on commence une émission.
C'est mais de manière enjouée.
Et toi, tu sais que c'est What Planet Is This.
Voilà.
Mais bonjour David.
Mais bonjour Stéphane. Et bonsoir Rafik.
Salut David.
Et bonjour Julien.
Bonjour.
Et on salue notre ami Arnaud Bordas qui n'est pas là.
Eh oui, Arnaud n'est pas là. Arnaud n'a pas fait le trajet pour venir nous voir jusqu'ici.
Il est dans nos cœurs.
Mais
il est dans nos cœurs.
Il est dans nos cœurs, exactement. Et il reviendra bientôt, nous l'espérons tous. Nous allons faire un capture
moi,
mag.
Pas moi, je
toi,
veux pas d'armes.
Non, pas toi, pas Stéphane. Nous allons faire un capture mag hebdo, donc consacré à trois sujets que nous allons aborder tout de suite. Mais je rappelle que vous retrouvez tous ces beaux podcasts capture mag sur capturemag.net.
Exactement.
Et sur iTunes, voilà, capture mag, le podcast.
Mais partout, sur partout, Twitter, partout. Sur chez votre boulanger.
Voilà.
Vous achetez une baguette, il y a un podcast gratuit.
C'est ça. Voilà. C'est comme un film Disney.
On vend des poires à lavement capture mag.
Ah ouais, ça c'est bien. Ça, c'est très bien. Bref, on va engager tout de suite les hostilités parce que ce sont des podcasts de courte durée. Et c'est parti tout de suite. On va parler de BFG ou BGG en français.
The Big Friendly Giant, une production Disney d'ailleurs.
Tout à fait, ouais. Rafik.
Ils l'ont pas fait exprès.
Non, c'est une distribution Disney aux États-Unis.
Aux États-Unis,
mais pas une production.
Pardon.
S'il te plaît.
Donc, vas-y, parle-nous de ce chef-d'œuvre.
Donc, ce chef-d'œuvre, ardemment défendu par notre ami David Oga ici présent. Qui a cordialement détesté ce film, et je pense qu'il n'est pas, hélas, le seul, mais on va peut-être en reparler, parmi les amateurs de Spielberg, avoir été décontenancé par
amateur de bons films.
Par ce plongeon dans du cinéma ouvertement enfantin. C'est le deuxième film enfantin que Spielberg enchaîne en peu de temps, si on compte Cheval de guerre.
Tu l'aurais mis dans cette catégorie-là.
C'est un film pour enfants, manifestement, tiré d'un roman de Roald Dahl de 1982.
Non, je parlais de Cheval de guerre.
Cheval de guerre est un film pour enfants, en fait, David.
D'accord.
Je te l'annonce, hein, comme ça.
Non, mais je
choqué. Cheval de guerre est un film qui a été conçu pour les enfants.
Il faut sauver le soldat Ryan aussi, David.
Ah ouais. Et Schindler's List, pareil, quoi. D'accord, mais j'avais pas tout compris.
En fait, dans la grande question qu'on s'est posée, et sur laquelle on a d'ailleurs pas encore vraiment de réponse, c'est qu'est-ce qui avait poussé Spielberg, qui est, englouti de projets à venir, à privilégier celui-ci parmi d'autres. Parce que le BFG, c'est un projet qui a traîné longtemps, qui débute en 1990, où Kathleen Kennedy avait commencé à le développer à l'époque pour Paramount, qui a eu plein de réécritures de développement. Elle, on a vu passer des tas de gens, y compris Terry Jones, des Monty Python, qui étaient passés dessus à une époque.
Mais pourquoi
etc.
pas
Avant que Melissa Mathieson, donc scénariste essentiellement connue pour E.T., ne reprenne la main sur.
Elle n'a pas été aussi la copine de Spielberg à un moment ?
Bah si, puisqu'en fait, on se doute que sur le plateau des Aventures de l'Arche Perdue, lorsqu'il lui a soumis le projet E.T., en fait, ça c'était une idée de Spielberg à la base, hein, et c'est lui qui l'a mise dessus. Mais il a souvent pris sa défense en l'accréditant de l'essentiel de beaucoup de choses qu'il y avait dans le film, même si on se doute que E.T. était un film en grande partie autobiographique, en tout cas né de son autobiographie à Spielberg. Toujours est-il que donc le film a été développé par Kathleen Kennedy et Frank Marshall sur le script de Matheson. Dans les années 90, il était question que ce soit Robin Williams qui interprète le géant. Il avait fait une séance de casting qui curieusement, de l'avis de tout le monde, était pas bonne du tout. C'est-à-dire que le personnage qu'il avait créé public ne fonctionnait pas avec le rôle demandé, avec le rôle de ce géant. Mais donc, qu'est-ce qui a fait venir Spielberg à ce projet, si ce n'est justement les retrouvailles avec Melissa Matheson? On n'a pas vraiment de réponse à ça. Tout ce qu'on sait, c'est que Matheson est décédé l'année de la sortie du film, quoi, du projet. Donc est-ce que, et ça c'est purement de la supposition, est-ce qu'on savait à l'avance qu'elle était atteinte d'une grave maladie?
Non, voilà. Manifestement, enfin, si j'en crois un article qui avait paru dans le magazine Empire sur le tournage du film, non, c'est venu sur une surprise totale.
Merci Julien,
durant la post-prod. Je suis désolé.
Justement, moi je me posais la question. Bon, on se posait la question, est-ce que Spielberg n'avait pas privilégié ce projet, sachant que Matheson n'en avait plus pour longtemps? C'est une question. Et c'est aussi un retour à la performance capture pour Spielberg après l'expérience Tintin. Et ça, c'est peut-être intéressant de se plonger là-dessus pour savoir justement s'il n'a pas cherché à refaire un film avec ce genre de méthode pour voir s'il n'y avait pas une autre façon de tourner que la performance capture totale, enfin le CGI total de Tintin.
On n'en est pas loin.
De Tintin.
Et d'avoir trouvé aussi son géant, du coup. Je pense que ça a déclenché
tout
aussi.
Tout à fait, avec l'acteur qu'il avait, sur lequel il tournait sur le Pont des Espions.
Ouais. Est-ce que, alors justement, il n'y a pas le fait que, par exemple, un Cameron, on en avait parlé déjà dans l'épisode sur Zemeckis, dans l'utilisation de la performance capture, le fait qu'un Cameron, en fait, sépare les avatars, en fait, les navis, pardon, et, comment dire, les humains. Est-ce que le fait que ça fait comme ça, en fait, de la même manière dans le BGG, où en gros c'est les humains sont les humains et les géants sont en perf caf, est-ce que c'est pas un truc qui pourrait venir de là?
Il est évident que ça vend plus le projet. Enfin, je pense que le public globalement n'est pas décontenancé par l'imagerie, contrairement au film de Zemeckis où il y a encore un problème. Il accepte les géants pour ce qu'ils sont. Il accepte du coup le côté entre guillemets hyper réaliste du projet, parce que précisément il y a cette gamine qui fait le lien. Voilà, mais c'est vrai que c'était aussi l'occasion de voir le rapport que Spielberg peut avoir avec une certaine forme de conte qu'il a jamais vraiment abordé dans sa carrière. Je sais même pas quel terme on pourrait l'amener, mais une espèce de conte post-dickensien, ben voilà, dans une ambiance du Londres de la fin du 19e ou début 20e.
Ça se passe dans les années 80, hein.
Oui, mais le visuel des premières séquences avec l'orphelinat, avec l'arrivée du géant la nuit, dans ces petites rues étroites, etc., renvoie immanquablement à ce qu'il aurait pu faire sur un Hook, par exemple.
Et même
à
l'époque, ça rappelle Hook.
Et que d'ailleurs, qui n'exploitait pas tant dans Hook, dans mon souvenir.
Donc voilà. Heureusement que ça rappelle pas tant que ça Hook, hein, en fait. Personnellement, j'ai beaucoup aimé, mais pour une raison en fait assez étrange, c'est que j'ai toujours cette impression que la performance capture sur Tintin a permis à Spielberg de se régénérer dans le pur divertissement. C'est-à-dire quand tu regardes Indiana Jones 4, après tous les films de divertissement, tous les films de divertissement qu'a fait Spielberg après La Liste de Schindler, je les ai toujours trouvés très bateaux par rapport à ce qu'il était capable de faire avant. On parle du Monde Perdu, je parle vraiment des films de divertissement purs, quoi. Et par exemple, je compte pas là-dedans un film comme La Guerre des Mondes où il y a vraiment
Du divertissement, on est d'accord.
Ça serait censé, on va dire. Mais le truc, c'est que pour la plupart des gens, c'est censé en être. Mais pour nous, on arrive à voir effectivement un grand film politique là-dedans. Le truc que je veux dire, c'est que un film comme le BGG ou un film comme Tintin, ce sont quand même censés être des films de pur divertissement, comme Spielberg a pu en faire et comme on l'a accusé d'en faire dans les années 80, mais avec une façon de réaborder la mise en scène à travers la performance capture qui du coup régénère les choses. Moi quand j'ai vu le film cet été en salle, j'étais surpris de voir à quel point ça vous ressemblait à un Amblin des années 80, sans ressembler à un Amblin des années 80, tout en étant totalement nouveau en fait dans la façon d'aborder la mise en scène, dans la façon d'aborder ces thématiques là. Et bon, pour faire un parallèle un peu malheureux, ce qui m'avait un peu choqué, c'était que ce film-là se bide en salle et qu'à côté de ça, on a des ersatz en fait de tous ces films en blind comme Stranger Things, la série Netflix,
qui n'est pas en salle pour le coup.
Non, mais qui elle est vraiment plébiscitée par le public qui a qui attend que des films à la Amblin reviennent, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, j'ai l'impression qu'il passe un peu à côté de ça.
Bah,
en fait. C'est ça
moi, je, alors, pour me faire l'avocat du diable, je dois dire que j'ai trouvé...
Je l'ai fait lâcher le morceau.
Non, mais j'ai trouvé que le film était long, que visuellement, je n'ai pas été convaincu par le design, le côté artistique de l'œuvre. Alors maintenant, on aime ou on n'aime pas, mais je n'ai pas trouvé ça beau. J'ai trouvé ça... Ouais, mais c'est un point de vue très personnel. Je pense que Spielberg reste un grand réalisateur et que pour les gens qui rentrent dans cet univers et qui l'apprécie, il passe un bon moment. Ça n'a pas été mon cas.
David,
oui.
Tu es viré.
Je vais vous virer aussi parce qu'on arrive au bout de cette chronique.
Voilà, juste pour dire que ça reste un film de Spielberg, manifestement. C'est-à-dire que,
ah oui, ça, voilà, ça on c'est sans équivoque.
On n'est pas dans le cas de Amistad où on se demande vraiment s'il était présent sur le plateau. Déjà, sa signature, elle est là, qu'on l'apprécie ou pas, visuellement déjà. Thématiquement aussi, parce que c'est difficile de ne pas tirer
le trait. Il y a des proutes, ça aime bien ça.
Non, mais même de ne pas tirer le trait d'union entre le personnage de ce géant qui est une espèce de donneur de rêve et Spielberg qui forcément c'est pas la première fois se pose des questions sur son rôle en tant que metteur en scène et de faire cette espèce de package à destination des enfants d'aujourd'hui qui pour la plupart le risque de le découvrir avec ce film là je trouve que c'est intéressant. Ça reste un film pour enfants, il faut vraiment le prendre en tant que tel,
mais un peu long, je trouve, pour des enfants.
Et encore une fois, le Spielberg des années 80 ne faisait pas des films pour les enfants. Il faisait des films pour l'enfant qu'il était.
Puis si vous aimez la mise en scène, tout simplement, quoi. Voilà, c'est tellement virtuose, quoi.
On précise que ça sort en DVD, en Blu-ray.
Exactement, c'est pour ça que vous en parlez. Exactement. Tout à fait. DVD et Blu-ray que vous trouverez chez votre revendeur préféré, quel qu'il soit.
Le tien, et c'est lequel
Non, je ne dirai pas. Bon, on passe à la suite.
On passe à la suite.
Allez, c'est parti, je ne lance pas de jingle, je vais lancer de la musique. C'est mieux. Mais quelle est cette musique étrange? Quels sont ces bruits, Julien?
C'est magnifique, hein. Je crois que c'est une des plus beaux scores qu'il ait fait pour Joe Dante, Goldsmith.
Jerry Goldsmith.
On pourrait dire ça de pratiquement tous les scores.
Celui-là, je le trouve vraiment magnifique.
Mais ils sont tous très bons.
C'est super, puis c'est très étonnant. On va parler des banlieusards.
Voilà, Burbs en anglais.
Voilà.
À l'occasion de sa sortie Blu-ray DVD.
Blu-ray, mais il faut la replacer dans son contexte. C'est un film qui marque assez pivot dans la carrière de Joe Dante. Enfin, moi, c'est comme ça que je le prends. Ça marque vraiment le début de la descente, en fait. Ce qui est un peu paradoxal d'ailleurs, parce que le film avait plutôt bien marché en salle aux États-Unis à l'époque. Faut dire que
il y avait
Tom Hanks. C'était surtout l'époque où Tom Hanks il venait d'exploser littéralement
avec Big
et ça c'était un coup de chance pour eux, ils s'attendaient pas forcément à ça. Je crois que Big était pas sorti au début de l'entrée en production des banlieusards, mais c'est aussi un film qui a eu un accueil critique mais lamentable aux États-Unis, c'est-à-dire que le film s'est fait démonter complètement. Je crois que
c'est pas mérité,
c'est
le franchement.
Pire accueil critique qu'a eu un film de Joe Dante, ce qui n'est pas peu dire parce que c'est pas quelqu'un qui a été souvent en phase avec la critique, en tout cas américaine. Et le film n'est pas sorti en salle en France.
Oui.
Ce qui est complètement délirant quand tu y repenses.
Oui, c'était vraiment, effectivement, moi je me souviens, le premier choc que j'ai eu par rapport à un direct tout vidéo, parce que jusque-là, les directs tout vidéo étaient des films sortis de studios plus ou moins indépendants, avec peu de stars ou personne.
C'est un film qui date de 89, voilà. Enfin, faut remettre dans son contexte.
Et là, durant l'été, on avait le report du box-office américain, on voyait donc les chiffres du nouveau Joe Dante, donc on attendait évidemment la sortie à la rentrée du film, et là, boum, pas de sortie. Vous allez vous le choper en vidéoclub, en version française, et basta. Et c'était
recadré, probablement.
Complètement, ouais. Évidemment. Ouais, ouais.
En fait, la problématique
explique aussi que le film n'est peu ou pas d'existence culturelle en France.
Que c'est un film hyper culte aux États-Unis.
Voilà,
il y a carrément
c'est ça
des bouquins, qui se font avec des citations. Et en fait, moi, j'en avais parlé avec Joe Dante à l'époque, il y a un an ou deux, quand j'ai fait une interview avec lui. Et je lui ai demandé, pourquoi le film n'était jamais sorti en France. Et l'explication qu'on lui a donnée, c'est que la thématique du film les banlieues à l'américaine typiques, ça, c'est pour les Français, ça ne leur parle pas du tout. Ouais. En fait, voilà.
C'est comme les films sur le football américain.
Non, mais il faut noter que.
Ce qui est une absurdité d'ailleurs. Enfin, on va
au tout début des
après,
années 80, il y avait eu un film avec John Belushi et Dan Aykroyd réalisé par John G. Avildsen qui s'appelait Neighbors, les voisins, qui était sorti en France avec de la promotion et qui a fait un bide absolu. Enfin, genre, c'est à peine si les salles ont pu être remplies. Donc je pense que pour les distributeurs français.
C'était une mauvaise excuse.
Le côté comédie grinçante de voisinage banlieusard américain, c'était même pas la peine d'essayer de le vendre au public français. Quoi.
Alors ce que j'aime bien dans cette musique, parce que j'ai laissé la musique de Goldsmith en arrière-plan, c'est que Goldsmith se parodie lui-même pas mal dans ce score, dont on l'a pas entendu au début, le thème de Patton qui reprend.
Il y a beaucoup de références, il y a une référence à Morricone et tout aussi.
Ça, c'est une référence à Poltergeist.
Et puis là, on va avoir droit au plus bel instrument de musique pour caractériser le chien du.
Bah oui,
du voisin. Voilà.
Bref. Oui, il y a le chien, on va l'entendre après. Ouais.
Il chie sur les pelouses des autres voisins. Mais c'est ça qui est intéressant avec le banlieusard, The Burbs.
Il faudrait peut-être pitcher le film, non, juste avant.
Voilà, pitchons le film.
C'est le film, en fait, c'est un film qui aurait pu être un film typiquement des comédies américaines, justement, avec John Candy, qui en avait, comme il y en avait dans les années 80, qui était un peu mollassonne, quoi. Mm. Et en fait, c'est complètement travesti par la façon, le sel, en fait, et l'acidité mise par, Joe Dante dans le film. Et c'est l'histoire, en fait, de quelques voisins qui se demandent qui sont les nouveaux
arrivants
dans une communauté de banlieue, qui sont les nouveaux arrivants et qui commencent à se poser vraiment des questions sur
monter une psychose autour d'eux, quoi,
sur leur fonctionnement. Et le truc, c'est que ça aurait pu être
ça se passe durant un été où ils ont tous décidé de ne pas partir en vacances aussi, hein.
Ils sont tous en vacances, c'est-à-dire ils sont tous désœuvrés,
ils s'emmerdent.
Voilà, et du coup, en fait, en gros, là-dessus, ce qui est très intéressant dans le film, c'est que un mec comme Joe Dante le reprend totalement à sa sauce. En fait, il en fait vraiment une espèce de critique acerbe par-dessus le marché. Le score que tu passes de Goldsmith, en fait, donne aussi un énorme aspect épique au film que t'as pas dans ce genre de comédie à la base. Hein. C'est-à-dire, y compris dans les années 80, hein, même si un Goldsmith pouvait scorer éventuellement une ou deux comédies, c'était plus des trucs fantastiques, des trucs comme ça, et pas des.
Et le point culminant quelque part de ça, bon, en dehors du final peut-être, le point culminant, c'est une séquence de rêve absolument mémorable où. Parce que, en fait, il y a une vraie analyse autour de ce qui se passe dans la tête de Tom Hanks, et puis il y a une lecture dans une des fins alternatives qui est proposée sur le Blu-ray d'ailleurs, qui est très intéressante. Je sais pas si je peux la dévoiler, parce que c'est une fin qui n'est pas dans le film.
Allez
la voir, parce que ça jette un regard, ça vous permet de jeter un regard vraiment intéressant sur Tom Hanks. Je trouve que c'est un manque énorme, en fait, dans le film qui finit, en fait, de décrire le personnage. Et donc il y a une séquence de rêve où là il convoque toute sa cinéphilie, la Hammer, tout ça, tout le cinéma d'exploitation, les films de Roger Corman, tout ça. Et c'est chaque vignette de ce cauchemar lui permet de revisiter un cliché de banlieue, donc le barbecue, le rapport au voisinage, la femme qui t'attend sur le perron quand tu viens de bosser, etc. Et c'est vrai que ça c'est super intéressant. Moi je trouve que le film a un petit côté un peu foutraque. Il faut quand même préciser que
c'est un film, on le disait tout à l'heure, ça a un petit peu vieilli quand même.
Oui, mais surtout je trouve que c'est pas super bien écrit, et pourquoi, c'est-à-dire que c'est un film qui a été tourné pendant une grève des scénaristes. Du coup il y avait un des co-scénaristes qui est un des comédiens, en fait, dans le film, pour justement permettre de réécrire des choses. Et du coup il y a beaucoup de scènes qui ont été improvisées, rajoutées. Carrie Fisher qui joue la femme de Tom Hanks écrivait elle-même des scénarios,
des morceaux,
et donc et avec Tom Hanks ils ont beaucoup improvisé. Il y a toute la troupe d'acteurs habituels de Joe Dante, il y a Robert Picardo, Dick Miller qui a un petit rôle savoureux, et moi je regrette qu'il soit pas un peu plus présent d'ailleurs dans le film, ils auraient été géniaux. Il y a Bruce Dern qui est à mourir de rien,
ouais,
moi,
lui, génial,
hein. C'est un de ses meilleurs rôles, quoi, tout concernant.
Non mais ça reste de toute façon
un
très bon divertissement,
tout à fait sympa, c'est très important je pense quand même dans la carrière de Joe Dante, pour plein de raisons. C'est important quand on aime les divertissements des années 80. C'est-à-dire, c'est aussi, ça annonce la fin de toute cette vague de féerie banlieusarde qu'on a pu avoir dans les années.
Et le début, d'un regard acerbe et critique, parce que le film donc sort en été 89 aux États-Unis où il marche plutôt bien. Il était donc classé au box-office, et à la rentrée, la Fox démarre la première saison des Simpsons, qui va. Et je sais pas si c'était vraiment forcément conscient dans
c'était dans l'air
créatif, mais c'était dans l'air. Mais voilà, on va
il
retrouver.
Était, bien dans, voilà. dans son époque.
Au niveau rythmique, au niveau parodique, au niveau référence à des films préexistants et tout, dans Les Simpsons, on retrouvera un petit peu de l'esprit des banlieusards.
Et juste avant de conclure, avant que je me fasse décapiter par David, juste un petit mot sur le coffret qui est quand même super. Il y a la copie de travail du film. Il y a plein de scènes. Il y a plein de scènes alternatives qui sont vraiment, vraiment super intéressantes. Et puis, c'est un bel objet avec un livret, ça on le souligne peut-être pas assez souvent, je trouve, sur les coffrets Carlotta, qui a des vrais textes à la fois informatifs et analytiques qui sont vraiment intéressants, et un crédit photo à tomber avec des tonnes de photos inédites. Je savais même pas qu'elles existaient.
Ça, c'est sympa, par contre.
Et je les ai, même dans les sites de fans, il y a un gros site surtout de fans des banlieusards. Moi, je les ai pas vus. Après, j'ai pas épluché tout le site internet, mais voilà, donc ça vaut carrément le coup, quoi. Voilà.
Et c'est déjà sorti en DVD Blu-ray là, c'est depuis décembre.
Voilà. Alors c'est en Blu-ray, c'est pas donné par contre, 49,99 chez votre revendeur préféré, voilà.
Ouais, mais c'est pas donné, mais c'est du beau boulot quand même. Et
c'est
voilà,
du beau
il faut
boulot.
Se féliciter d'avoir encore
juste...
des sorties comme ça.
49, c'est à peine le prix d'une VHS.
On peut, juste regretter un truc, c'est que pour m'être renseigné, pour des nuits au max par exemple. Carlotta qui souvent fait des éditions DVD et en profite pour prendre les droits cinéma, ce qu'ils avaient fait sur Panic à Florida Beach du même Joe Dante. Et ben là pour les banlieusards n'ont pas les prix les droits cinéma, et je le regrette bien parce que j'étais bien parti dans l'idée de faire une nuit Joe Dante et j'aurais bien passé celui-là. Et ben non, c'est pas possible. Et ils m'ont dit, ah non, mais même pour la promo du Blu-ray ou du DVD, non, c'est pas possible. Bon, alors c'est pas possible, alors on passe à autre chose, voilà.
C'est pour ça.
Un peu de drame, un peu de profondeur pour lancer Stéphane sur l'art de la Hammer.
Voilà, bah, alors comme vous le savez, c'est bientôt Noël, vous savez pas quoi offrir à vos amis, donc vous vous dites, attendez, vous allez vous marcher dans les rayons, il y a du Star Wars, la poire à lavement BB-8, les oranges BB-8. BB-8 n'est même pas dans le nouveau film, mais il n'y a que ça. Quoi.
Même chez Mark Spencer, il y a des chocolats BB-8.
Exactement.
Incroyable.
Il y a des rasoirs Stormtrooper.
Oui,
des rasoirs
Stormtrooper,
tu vois, des trucs pour laver tes chiottes d'Arvador. Enfin bref, c'est terrible. Et donc le truc, c'est que pour offrir un vrai beau cadeau, il faut quand même se creuser un peu la tête. Donc moi, ce que je vous propose aujourd'hui, parce que vous êtes tous cinéphiles à cette table et tous nos auditeurs sont cinéphiles, c'est de plonger un peu dans le catalogue de l'éditeur Akileos, qui en fait sort, c'est sorti depuis début novembre, L'Art de la Hammer. Alors là, vous pouvez pas le voir, mais je l'ai dans la main, voilà.
Donc,
comme on ne filme
livre.
Pas, je veux dire, je peux le faire semblant de le feuilleter, mais en vrai, je fais pas semblant, je le feuillette vraiment. Voilà.
C'est donc, vrai, regardez, hein, je peux témoigner.
Ça s'enregistre pas, autant pour moi. Et donc, en fait, voilà, c'est le livre qui sort là depuis début novembre, mais il y a beaucoup d'autres livres en fait chez Akileos sur la Hammer. C'est L'Art de la Hammer en fait de Marcus Hearn, et c'est les plus belles affiches des films de la Hammer.
Ça, c'est sympa.
Voilà, c'est un bouquin hyper riche en termes d'iconographie. Pas beaucoup de texte pour le coup par contre, mais vraiment pas mal d'affiches et de tout en fait, de tous les bords, c'est-à-dire qu'il y a des affiches françaises, espagnoles, italiennes, et en fait c'est là où on se rend compte que voilà, c'est là où on se rend compte que c'était quand même assez riche.
Oui, alors tu as pas recalé, bon, nos amis sont cinéphiles mais pas forcément au courant de ce qu'est la Hammer, enfin j'imagine
si
pour
vous
la plupart
avez,
mais...
si vous avez 40 ans comme nous à peu près, forcément la première
40
figure
ans,
hein, voilà. Bah, en tout cas 40 ou entre 40 et 42 ans pour toi David,
c'est ça.
En fait, vous avez forcément grandi avec le Dracula qui était Christopher Lee.
Bien sûr.
Et c'est le Dracula de la Hammer, évidemment. Donc le truc, c'est que la Hammer, c'est une boîte de production anglaise qui s'est fait connaître dans les années 50 et 60, en fait, pour faire beaucoup de films d'horreur.
En reprenant grosso merdo le catalogue
Universal,
des monstres de Universal,
voilà,
des
et en les faisant à leur manière.
Voilà, et qui les a menés à la couleur, en fait, surtout au Technicolor, avec des productions... qu'on considérerait à l'époque comme des petites productions de série B, qui en fait, par le talent de pas mal de réalisateurs qu'ils avaient, notamment Terence Fisher,
exactement, voilà.
Ou leur directeur de la photo,
Freddy Francis,
et des acteurs aussi, Peter Cushing par exemple.
On livrait des films qui en fait ont posé vraiment, ont posé une esthétique gothique nouvelle qui a complètement pas infusé mais carrément défini le cinéma d'épouvante et d'horreur des années 50-60.
Avec ce qu'on trouvait pas forcément d'ailleurs chez Universal, toujours une charge, enfin très très souvent en tout cas, une charge érotique très forte dans les films.
Justement, ouais, c'est
et
ça.
Et qui se retrouve dans les affiches.
Mmh. Voilà, exactement. Et non seulement ça se retrouve dans les affiches, mais alors le truc c'est que du coup, il y a un pack en fait complet si vous allez sur le site de l'éditeur, c'est Akileos.
Comment t'écris ça?
Alors A K I L E O OS.
Très bien.
Il y a aussi, en fait, ils ont ressorti, parce que c'est une version augmentée, ils ont rajouté les films qui sont sortis depuis 2010, parce qu'il faut savoir que la Hammer a arrêté de produire des films dans les années 70 pour revenir en début, 2010, avec les films comme La Dame en Noir, qui sont aussi des films d'épouvante pour la plupart, en fait, leurs nouveautés. Il y a La Dame en Noir, il y en a. Enfin, je crois qu'ils ont fait la suite aussi de celui-là, ouais, mais il y en a d'autres, voilà.
Pas super ce qu'ils font.
Aujourd'hui, ouais, bah, ils fonctionnent sur leur réputation, on va dire, d'époque, quoi. Mais le truc, c'est que cet autre livre qui s'appelle L'Antre de la Hammer, pour le coup, revient vraiment sur l'historique. Là, pour le coup, c'est très complet. Alors, c'est très, très visuel aussi, comme bouquin, mais c'est très complet aussi en termes d'historique, et notamment toute la charge érotique dont parlait Julien, tout ce qui est dedans. En fait, il y a un gros passage sur la censure et la façon dont ces films étaient perçus à l'époque, et la façon dont ils pouvaient être censurés, coupés, même à l'avance. Et pourtant, à côté de ça, ce qui est formidable, c'est que ce qu'on voit dans ces bouquins-là, c'est de voir, par exemple, Piccadilly Circus avec l'affiche de Dracula en gigantesque, quoi, et Christopher Lee qui mord le cou de sa victime. Donc voilà, c'est toute une époque, quoi. Et alors, dans leur pack, alors si vous prenez carrément le méga gros pack, il y a un vinyle avec des BO de leur film le plus emblématique. Donc des BO comme...
Par exemple, ça.
Voilà.
Ça fait sourire Rafik. Il est content.
Je suis content, c'est Captain Chronos.
Voilà. Et donc du coup voilà, c'est vraiment un gros truc donc de fanboy. C'est hyper complet. C'est en même temps très très documenté. Et voilà. Et en fait, il faut savoir qu'effectivement, les films connus de chez la Hammer sont les films de Dracula, Frankenstein s'est échappé, si je dis pas de bêtises en français.
Mais c'est vrai que ça, ils ont visité tout un panel de genres. Ils ont fait de la SF, ils ont fait des films de préhistorique,
Quatermass Experiment.
Ils ont été jusqu'à l'époque du Kung Fu avec les 7 vampires.
Voilà, c'est ça. Et c'est ça qui est bien en fait avec ce vinyle aussi, c'est que c'est un peu toutes ces périodes-là en fait qui sont un peu mélangées dans les BO, quoi.
Il y a un autre bouquin que j'aimerais conseiller au passage, qui s'appelle Dans les griffes de la Hammer, la France livrée au cinéma d'épouvante. C'est un livre de Nicolas Stanzik qui est sorti en 2008 chez l'éditeur, si je dis pas de bêtises, Scali, qui raconte l'impact que la sortie de ces films a pu avoir sur toute une cinéphilie française, et à quel point elle a défini la cinéphilie alternative, en fait. C'est-à-dire que il y aurait pas eu de Midi Minuit Fantastique, il y aurait pas eu d'Écran Fantastique, il y aurait pas eu de Mad Movies, il y aurait pas eu toute cette
de Starfix aussi,
même
hein,
de Starfix.
Gans, c'est un énorme
voilà.
fan. Hein.
S'il y avait pas eu la Hammer qui a été vraiment l'agrégateur de toute cette contre-culture en France à l'époque, c'était des films qui étaient très très très, très mal vus, traités comme de la pornographie par la critique institutionnelle.
Et qui passait dans les mêmes cinémas que le porno, d'ailleurs.
Ce qui, aujourd'hui, quand on les voit aujourd'hui, les gens auront du mal, encore une fois, à considérer être considéré comme pornographique, tellement le visuel est somptueux, et on voit qu'il y a un énorme travail de costumes, de décor. Mais leur charge, effectivement, leur charge érotique, comme le précise bien Julien, les a vraiment condamnés dans la France du général. Et donc voilà, ce bouquin est vraiment chouette et assez documenté sur comment cette cinéphilie parallèle a pu naître autour des films de la Hammer.
Voilà, donc c'est chez l'éditeur Aquileos. C'est sorti là début novembre. Donc si vous voulez faire
L'Antre de la Hammer, ça vaut 35€. Voilà. C'est le prix moyen des beaux livres de cinéma en ce moment.
Voilà, je crois que tu peux même pas dire que c'est pas un beau livre.
Ah non, il est magnifique. Superbe. C'est superbe.
Donc voilà, et donc si vous voulez vous faire offrir ça plutôt que le double DVD Blu-ray, je sais pas quoi, de Star Wars épisode 7, Le Réveil de la Force. Voilà,
un film dont les gens se souviennent.
Voilà.
Donc voilà.
Bon, eh ben merci beaucoup Stéphane, on va s'arrêter là. Ça fait un bon Capture Mag Hebdo, je trouve, moi, un bien rempli, non?
Ben voilà, comme toujours.
Ben oui, moi je trouve aussi. Je trouve que
on a
bien.
Été trop long, c'est ça?
Non, à
mais
peine.
Non, tu le regrettes.
Mais non, je le regrette pas, vous étiez parfait.
Qu'est-ce qu'il chante là derrière là, mon général? David.
Je sais plus.
Il est fatigué.
Je suis fatigué, je vais rentrer me coucher là. Allez, on va piller les gaules et puis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre Capture Mag, peut-être un long, peut-être un court, on verra selon l'inspiration du moment et selon l'actualité du moment, car l'actualité est importante. Et on vous encourage à nous laisser des étoiles sur iTunes, des commentaires sur le site Capture Mag et des tweets sur Twitter pour le @CaptureMag et compagnie, et le Facebook et tout ce que vous voulez. Je vous embrasse les amis, je vous remercie d'être venus et de nous avoir parlé de toutes ces belles choses.
Salut David.
Et je vous dis à bientôt.
Salut.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Welcome back to Two Judgy Girls. I'm Mary from the Bay.
And I'm Courtney from LA. TJG is the podcast where we spill all the tea on your favorite reality TV shows, celebrity gossip, and everything in between. We're here to bring you our unfiltered opinions, hilarious commentary, and plenty of laughs along the way.
We're two SDSU Delta Gamma sisters with a microphone and a whole lot of opinions. Each week, we dive headfirst into the wild world of reality television, from Bravo to all the trash TV you could want. We break down the drama, dissect the latest scandals, and share our thoughts on everything from the jaw-dropping moments to the embarrassing antics.
But that's not all. We're not here to just gossip. We're here to connect with you, the jurors, and share our love of all things pop culture. Whether we're dishing on the latest celebrity breakups, discussing our favorite guilty pleasure movies, or sharing embarrassing stories from our own lives, we promise to keep it real, keep it fun, and keep you coming back for more.
Come judge with us.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.